retour à la matière biblique par le travail sur l'homme Moïse et la religion monothéiste. Et j'ai voulu rappeler que ce retour à ses racines juives personnelles et à cette généalogie hébraïque et biblique de la culture européenne ne représentait pour Freud en aucune manière une rupture, mais représentait au contraire un approfondissement inscrit dans le style qu'il a toujours eu, c'est-à-dire une prodigieuse culture historique, philologique, archéologique, qui fait de Freud un esprit complet. Une sorte d'homme universel de notre XXe siècle. Il y a peu d'exemples d'esprit qui aient pu combiner jusqu'au bout une culture littéraire et humaniste à une culture scientifique et médicale.
Alors, vous parlez de cette ambiance classique et l'intérêt pour les grands classiques et notamment pour les Grecs, et Freud donc va trouver dans la tragédie grecque le personnage d'Œdipe. Mais vous le dites, l'œuvre de Sophocle n'apporte pas seulement à Freud la formule du complexe d'Œdipe, elle illustre aussi l'idée que l'analyse est quelque chose de tragique.
Absolument. C'était l'intuition formidable de Lacan, qu'il ne s'agit pas seulement d'une psychanalyse de la tragédie ou de la recherche chez le classique grec de la confirmation des résultats de la clinique, mais qu'il s'agit vraiment d'une analyse tragique, selon l'expression que Schiller avait été le premier à employer dans une lettre consacrée précisément à Sophocle. Et c'est vrai que la ressemblance entre le patient freudien contemporain et Œdipe est considérable. 20 ans se sont écoulés entre le parricide commis sans le savoir par Œdipe en Argolide et le grand procès que le roi de Thèbes qu'il est devenu, le tyran en route vers la démocratie, organise pour tirer au clair tous les événements qui ont conduit au malheur de la cité thébaine, de même que nous, humains, nous vivons ce conflit œdipien et puis nous l'assumons et nous le tirons au clair 20 ans après, lorsque nous sommes devenus adultes et la maturité, l'âge d'homme, c'est précisément d'arriver à tirer au clair cette analyse, ce procès de notre inconscient qui se joue dans la pièce de Sophocle. Il y a vraiment beaucoup plus qu'une ressemblance entre l'histoire d'Œdipe et l'histoire du petit garçon. C'est une figure du destin
oui,
de l'individu face à ses pulsions.
Oui, parce que le savoir freudien n'apporte pas à l'individu simplement la maîtrise de ce destin pulsionnel, mais il apporte simplement la vérité vérité sur sa condition tragique. C'est peut-être du sujet de l'inconscience. C'est peut-être là que Lacan, justement, a, je crois, à partir de l'analyse de d'Antigone, trouve cette essence de la tragédie. Hein.
Voilà. Oedipe s'aveugle pour s'infliger un châtiment et s'exile de sa propre cité, mais en se crevant les yeux, Oedipe parvient en réalité à la clairvoyance suprême, à la lucidité, à la sagesse, et devient pour tout son entourage et pour toute sa cité, et aussi pour toute l'humanité européenne à travers l'interprétation freudienne, un modèle de sagesse et de lucidité d'un homme sur sa condition humaine.
Oui, vous parlez justement de toute cette Europe qui connaît très bien cette tragédie, et on est frappé en lisant votre livre à quel point la présence de la tragédie grecque est partout, hein, et pas seulement Sophocle. C'est pas seulement Sophocle qui est traduit, adapté, actualisé et joué, mais c'est tous les tragiques grecs, et on sait exactement quels sont, à quel moment Freud voit Oedipe à Paris ou à Vienne.
Oui. Le code de la tragédie grecque est un code transparent pour les lecteurs de l'interprétation des rêves. Ce n'est pas un passage savant ou érudit, c'est au contraire une référence transparente pour tous les lecteurs, tant soit peu cultivés, de l'interprétation des rêves. En somme, contrairement à ce que nous pourrions penser aujourd'hui, dans l'interprétation des rêves, ce n'est pas la référence à Sophocle qui est peut-être une difficulté pour le lecteur de Freud. Au contraire, pour Freud, il y a une recherche d'élucidation, de simplification, une manière d'expliciter ce qui peut paraître un peu surprenant, déroutant, incompréhensible pour son lecteur, en faisant référence à quelque chose que, au pied de la lettre, tout le monde connaît par cœur.
Mais quand, par exemple, Hofmannsthal va traduire, écrire son Oedipus und die Sphinx, il va utiliser la Traumdeutung pour moderniser le dialogue entre Oedipe et Félix, où il est question de rêve. Donc il fait appel à la Traumdeutung pour apporter un élément et qui rapproche encore ce texte avec le public.
C'est vrai que la réussite incroyable de Freud, c'est que quelques années après la publication de l'interprétation des rêves, fin 99, son interprétation à lui est désormais indissociable de l'Œdipe roi de Sophocle. Il n'y a plus désormais de spectateurs de cette pièce, de lecteurs de cette pièce, qui ne pensent à Freud et qui ne soient tentés de projeter l'interprétation de Freud sur le texte de Sophocle. Et Hofmannsthal est un des premiers témoignages qui confirme que le XXe siècle, qui a été inauguré par l'interprétation des rêves, est aussi marqué par une lecture freudienne presque systématique et inéluctable de la tragédie de Sophocle. Jean-Pierre Vernon et Pierre Vidal-Naquet parlaient d'Oedipe sans complexe. Oui, c'est vrai, l'Oedipe de Sophocle ne connaissait pas le complexe d'Oedipe, et Sophocle aurait sans doute été surpris de lire Freud, mais pour nous, au XXe siècle, et Hofmannsthal a été un des premiers à incarner cet horizon de lecture et d'interprétation, Freud est indissociable de l'Œdipe roi de Sophocle.
Comment est-ce que vous entendez alors le sous-titre que vous donnez à votre livre, le retour à l'antique des modernes Viennois? Il y a une espèce de paradoxe là qu'il faut aussi peut-être, dont il faut parler.
C'est vrai que il y a un paradoxe parce que normalement les anciens et les modernes se combattent au lieu de se compléter, de s'entraider. J'ai voulu montrer que les modernes de la génération de Freud à celle de Hofmannsthal avaient trouvé leurs principaux thèmes, leurs principales inspirations et quelquefois même leurs principaux arguments théoriques et philosophiques dans ce patrimoine de la littérature classique, grecque et latine, qui était au premier rang des études de tout honnête homme de cette génération.
On voit aussi comment Freud reçoit les pièces qu'il va voir. Il y a le Œdipe roi à Paris qui, avec Mounet Sully dans le rôle d'Œdipe, et puis à Vienne, et König Œdipus. Et vous montrez d'ailleurs que Œdipe est joué dans des cirques avec un sens du grand spectacle, notamment pour restituer un petit peu l'ambiance du théâtre grec avec beaucoup de figurants. Et Freud, vous montrez comment ce à quoi il est attentif, notamment à la réaction de Freud, de la réaction de Œdipe quand il apprend la mort de celui qu'il croit être son père, Polybe, je crois.
C'est vrai que Freud avait vu plusieurs fois jouer Œdipe roi. À Paris, il avait beaucoup apprécié le Mounet Sully dans le rôle d'Œdipe et dans la traduction de Jules Lacroix. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Freud n'était pas le seul à beaucoup admirer ce spectacle et récemment, j'en ai trouvé confirmation dans Romain Rolland, qui a vu le même spectacle un peu plus tard, 5 ans après Freud, et qui lui aussi était éperdu d'admiration devant l'Œdipe roi joué par Mounet Sully. C'était vraiment un spectacle qui avait un énorme succès et qui est resté à l'affiche pendant des décennies avec Mounet Sully ou avec d'autres acteurs. Et jusque à la Première Guerre mondiale, il y a eu un nombre considérable d'adaptations d'Œdipe roi pour le théâtre et de traductions. Le plus célèbre des hellénistes de l'université allemande, Ulrich von Wilamowitz Möllendorf, le grand détracteur de Nietzsche, mais qui était aussi le pape des études grecques, avait publié une traduction des tragédies de Sophocle, et en particulier d'Œdipe roi, et c'est cette traduction qui a été utilisée par Max Reinhardt pour ses productions à grand spectacle et à gros effectifs d'Œdipe roi qui nécessitait des salles radicalement différentes des théâtres à l'italienne. Et Reinhardt aimait produire ses mises en scène dans des cirques ou dans des salles de grand volume. Et à Vienne, comme à Berlin et à Munich, ce spectacle qui a circulé dans tout le monde allemand était joué dans ce lieu où plusieurs milliers de spectateurs pouvaient assister à la représentation et où il y avait, pour certains tableaux, plus d'une centaine d'acteurs et de figurants sur scène. Et donc Freud a vu ce spectacle et il était très attentif à la vérification de ses impressions de lecture. Alors, l'épisode auquel vous faites allusion, c'est que Freud avait vu la mise en scène de la traduction par Hofmannsthal de Die Proie, qui est donc autre chose que la traduction de Wilamowitz. Et dans cette pièce, Hofmannsthal, certainement influencé à nouveau par sa lecture de Freud, avait trouvé pour exprimer la satisfaction, la joie même qu'éprouve Œdipe en apprenant que son père, celui qu'il croit être son père, Polybe, qui en réalité est son père adoptif, est mort de mort naturelle. Et à cet endroit de la pièce de Sophocle, Œdipe s'écrie avec enthousiasme, eh bien alors, qui pourra dire maintenant que l'oracle avait raison? On m'accusait d'avoir mis à mort mon père, mais en fait, il est mort de vieillesse et mon seul regret, ma seule faute peut-être, est qu'il soit mort en regrettant de ne pas m'avoir revu. Et Hofmannsthal traduit de telle manière que Freud a reconnu dans la joie qu'éprouve Œdipe en apprenant la mort naturelle de Polybe, il traduit de telle manière qu'on peut comprendre que Œdipe se réjouit de la mort de son père Polybe. Et Freud dit, vous voyez, Hofmannsthal a parfaitement compris le texte de Sophocle, il a bien compris que Œdipe éprouve une joie une joie œdipienne à la pensée de la mort de son père. Et en fait, là, on a un exemple tout à fait surprenant de convergence entre l'interprétation freudienne, la traduction de Hofmannsthal et tout un contexte de réception où désormais la lecture de Sophocle, la traduction de Sophocle et la réception de Sophocle dans la salle de théâtre sont contaminés, on pourrait dire, par la contagion de l'interprétation des rêves de Freud.
Y a une chose très, très amusante qu'on découvre dans votre livre. Tout le monde connaît plus ou moins le trou de mémoire qu'a Freud quand il visite l'Acropole, hein, puisqu'il y a toujours cette grande déception. On va en Grèce, on s'imagine de voir ces grandes merveilles de l'art grec, et puis on voit des ruines. Or, Freud n'est pas le seul à avoir été déçu par l'Acropole. L'Acropole, vous donnez deux autres exemples, Hofmannsthal, qui lui aussi est déçu, et puis Grillparz.
Oui.
Et Grillparz, c'est aussi un personnage important, puisque c'est un tragique viennois, qui a aussi compté pour Freud.
Oui. Moi, ce qui me frappe dans ces récits de visites sur l'Acropole, qui sont très nombreux, à ceux que vous venez de rappeler, on pourrait ajouter Barès, qui raconte aussi qu'il a vu des temples vides quand il est allé visiter l'Acropole. Tout cela fait contraste avec un texte classique qui avait eu un retentissement européen, c'est la prière sur l'Acropole de Renan. Alors, on voit bien que pour un néo-humaniste comme Renan, l'Acropole, c'est très vivant, c'est une ruine, mais une ruine reconstruite par l'imagination, par l'érudition, par le savoir historique et philologique. Pour Freud, c'est une ruine qui ne correspond pas à l'image scolaire de la Grèce dont il a été rempli depuis sa jeunesse. Il y a le sentiment d'une déception. Et puis, dans cette lettre ouverte à Romain Rolland, trouble de mémoire sur l'Acropole, Freud ajoute avec beaucoup de subtilité, de perspicacité, un fragment d'auto-analyse où il dit qu'il n'y avait pas seulement la déception causée par l'écart entre l'imagination de l'élève de l'historien helléniste qu'il était et la réalité, il y avait aussi ce recul du juif Sigmund Freud face à ce haut lieu de la culture classique humaniste européenne, cette gêne à se retrouver, lui, fils de juif et vivant intensément sa condition de juif dans une société catholique et souvent antisémite, cette gêne de se retrouver au cœur même du code culturel d'une culture d'assimilation.
Alors là, on passe de nouveau, pour appeler votre titre, de l'Acropole au Sinaï, et donc vous montrer comment, c'est donc le thème qui vous construisez autour de Moïse, vous montrer qu'il y a vraiment chez Freud une réflexion très puissante sur la notion d'identité, le refus de toutes les assignations identitaires, religieuses, et une construction d'une toute autre identité.
Oui, en fait, ce que il y a une double visée dans ce grand livre qui est le pendant de l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, c'était le livre fondateur. L'homme Moïse et la religion monothéiste, c'est le dernier livre, la conclusion. La double visée, c'est d'une part une réflexion sur l'épuisement des inspirations éthiques et scientifiques de la culture européenne que Freud constate dans ces années où le nazisme triomphe et où la barbarie semble s'imposer sur la civilisation. Et puis l'autre grand thème de ce livre, c'est une nouvelle composition auto-analytique et autobiographique. Vous vous rappelez que l'interprétation des rêves était déjà remplie de thèmes juifs où Freud racontait des souvenirs d'enfance, parlait de son père juif et de scènes bibliques. Il y revient dans Moïse, mais il refuse de se plier à l'ère du temps. Il ne veut pas accepter les schémas identitaires que semblent imposer d'un côté les antisémites et de l'autre les différents mouvements de défense des juifs, que ce soit les sionistes ou d'autres. Il cherche à maintenir l'intégralité de ses choix, de ses convictions, qui sont celles d'un juif déjudaïsé, d'un juif hérétique, d'un juif laïque, qui ne renie rien de son assimilation à la culture scientifique, philosophique, européenne, allemande, etc. Et qui en même temps veut montrer qu'il y a une autre forme de fidélité à la loi de Moïse.
Alors pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin d'établir le fait que Moïse était un Égyptien? Donc, il démontre les racines égyptiennes du monothéisme juif. Pourquoi tant d'acharnement, justement, à soutenir une thèse qui, surtout aujourd'hui, apparaît comme tout à fait indéfendable?
C'est vrai que c'est très surprenant, c'est très provocateur, ça a choqué beaucoup de lecteurs dès l'époque où le livre a été publié, et peut-être surtout à cette époque-là, parce que c'était quelque chose d'inouï tout de même en pleine Deuxième Guerre mondiale, d'aller ainsi déposséder les Juifs de leur père fondateur.
En même temps, il y a toute une tradition derrière cela. Oui. Vous le montrez bien. Et c'est pas Freud qui invente l'égyptianité de Moïse.
Alors, c'est l'idée, en effet, que la judaïcité n'est pas héréditaire, n'est pas biologique, n'est pas liée à une quelconque identité ethnique, mais qu'elle résulte d'un choix. Qu'elle résulte d'un choix, et que ce choix est celui de la rationalité scientifique et de l'éthique. Et en faisant de Moïse le prêtre du pharaon Akhnaton, qui avait été le fondateur du culte d'Héliopolis, une tentative de réformer la religion égyptienne et de la conduire à une sorte de monothéisme égyptien. De cette manière, Freud montre que le judaïsme, ce n'est pas seulement l'affaire des Juifs et des Hébreux, mais que c'est le patrimoine de l'humanité, et qu'il y a un destin juif qui est le destin de chaque individu, qui est celui de choisir et de se convertir en toute connaissance de cause à des choix intellectuels et éthiques. Et donc, cette idée que on choisit sa judaïcité comme Moïse l'Égyptien avait choisi les Hébreux pour accomplir son programme philosophique et religieux, c'est une pensée extrêmement originale et qui va bien dans la cohérence de l'homme Sigmund Freud.
Un des intérêts de la construction généalogique freudienne est d'avoir placé l'émergence du monothéisme après le polythéisme, alors que certains, vous citez le père Wilhelm Schmidt, pensaient que à l'origine il y a le monothéisme, et donc il y a une espèce de façon de montrer que le monothéisme est une conquête, de même que c'est par le monothéisme que l'abstraction est rendue possible, puisque on va vers une représentation abstraite de Dieu. C'est au fond ça le moteur aussi chez Freud pour aller dans le sens de cette dimension oui. du monothéisme, non ?
Le monothéisme est une conquête, y compris pour les Juifs. Freud développe ce thème de Moïse assassiné dans le désert, au pied du Sinaï, par les Juifs qui ont été les premiers Oedipe de l'histoire de l'humanité dans la perspective de Freud. Ils ont tué leur père et après l'avoir tué, par un travail de mémoire et de transmission de la tradition mosaïque consolidée par un sentiment de culpabilité, les Hébreux ont reconstruit une figure du père et reconstruit une légende de Moïse qui est codifiée dans les textes bibliques. Et vous voyez avec quelle liberté, quelle audace Freud reprend sa première idée fondatrice, celle d'Œdipe, et l'entrelace avec l'histoire biblique.
Alors pourquoi est-ce que Moïse choisit justement de faire connaître sa loi par écrit et non pas comme cela a été naturel, parce qu'il s'agissait d'un peuple quand même dont la culture était encore peu élaborée. Pourquoi l'écriture et pas la parole ?
C'est vrai, ça c'est un aspect particulièrement frappant du texte de Freud. Freud place l'écriture très au-dessus de l'oralité. Il y a pour Freud une sorte de progrès de la culture quand on passe de l'oralité à la scripturalité. Chez Moïse, il n'y a pas seulement l'idée de la loi, selon Freud, il y a aussi l'idée du passage à l'écriture, qui est liée à l'idée du passage à l'abstraction et l'idée d'avoir surmonté le corps, d'avoir surmonté la matérialité de la condition humaine et d'être parvenu vaincre toute la pensée magique, toute la pensée, primitive, cette préférence donnée par Freud à l'écriture, au fond, contredit d'autres visions qui sont tentées de placer les visions du phonocentrisme au-dessus du logocentrisme et de présenter au contraire le logocentrisme comme une sorte de première forme de décadence.
Oui, parce que chez Freud, il y a une dévalorisation de la voix et de la parole.
Il y a une dévalorisation de la voix.
C'est-à-dire que dès l'origine, la vérité et la loi de Dieu de Moïse sont écritures, en fait.
Absolument. Et le thème bien connu que Schoenberg reprend dans son opéra Moïse et Aaron, de la difficulté de Moïse à s'exprimer, à se faire entendre, à se faire comprendre et aussi à se faire écouter et accepter lorsqu'il parle aux Hébreux dans le désert. Ce thème, Freud l'interprète radicalement comme un choix de Moïse en faveur de l'écriture.
Et parce que chez Schoenberg, le beau chant, c'est Aaron. C'est voilà. Lui qui séduit par la voix. Alors, Freud critique aussi une certaine idée de l'élection du peuple juif. C'est pas Dieu qui élit, qui fait ce choix, c'est Moïse. Et donc, Freud reformule en quelque sorte la notion d'élection pour lui ôter, comme vous dites, sa majuscule.
C'est vrai. Freud, dans ce livre sur l'homme Moïse, consacre un long développement extrêmement intéressant à la réflexion sur l'antisémitisme. Et parmi les racines de l'antisémitisme, il évoque ce thème de l'élection qui a suscité chez tous les autres peuples du bassin méditerranéen et d'Europe ce que Freud appelle un sentiment de jalousie et d'hostilité envers les Juifs. Et Freud veut en effet couper à la racine ce qu'il ne serait pas loin de considérer comme une sorte de délire d'élection du juif. Il veut en quelque sorte pour guérir l'humanité européenne de l'antisémitisme, il veut commencer par soigner le juif lui-même et le guérir de certains fantasmes délirants. Et en particulier, il veut infléchir le sens de l'élection désormais. C'est en faisant le choix de son identité juive que le juif accomplit son élection. De même que Moïse avait choisi les juifs, avait élu les juifs parmi les peuples pour être les porteurs de ce grand progrès de l'histoire de la culture. De même, chaque individu reproduira le geste mosaïque et élira en lui-même le juif rationaliste et éthique.
Alors, dans Freud de l'Acropole au Sinaï, vous sondez toute la bibliothèque que Freud avait à sa disposition. Et donc, j'aimerais qu'on passe un peu en revue certaines de ces sources freudiennes et aussi certains liens que Freud avait avec de grands intellectuels avec qui il était en contact et qui ont pu lui apporter beaucoup de matériaux dans sa construction, pour sa construction. Et je pense d'abord à Jacob Burckhardt, qui est l'auteur d'une histoire de la civilisation grecque. D'ailleurs, tous ces auteurs ont écrit des volumes et des volumes, parfois des séries de 12 volumes sur la civilisation grecque. Donc, par exemple, Burckhardt, c'est vraiment quelqu'un chez qui Freud prend beaucoup de choses, qui concernent notamment le rêve, les travaux qu'il avait fait autour des rêves de guérison, je crois, autour de Asclepios.
Freud avait, comme beaucoup de ses contemporains, un véritable culte de Burckhardt qui était d'abord lié à l'admiration portée à l'ouvrage sur la culture de la Renaissance italienne. Et le texte de Burckhardt, le grand livre en plusieurs tomes de Burckhardt sur la civilisation grecque, a été publié à titre posthume longtemps après son ouvrage sur la culture de la Renaissance italienne, et Freud l'a lu à l'époque de sa première publication, qui était aussi l'époque où il était en train d'achever l'interprétation des rêves. Et un des passages qui l'ont très profondément frappé est celui où Burckhardt expose le rôle des rêves de prédiction et d'oracle, en montrant que dans la culture grecque, le rêve avait une faculté de révéler le futur, contenait des messages que les prêtres interprétaient à l'usage des personnes qui avaient rêvé. Et il raconte des scènes frappantes où, par exemple, une personne allait dans un temple et rêvait, et ensuite racontait au prêtre son rêve et recevait l'interprétation de ce rêve avec prédictions pour sa propre existence.
On pouvait rêver, par exemple, dans le temple d'Asclepios, on pouvait rêver le remède qu'il fallait pour sa maladie. Et donc, Burckhardt va très loin, puisqu'il explique comment Alexandre, quand il était à l'agonie, avait des généraux qui rêvaient pour lui et qui lui apportaient le message, ce que le dieu avait pu dire, en conseillant notamment Alexandre qu'il ne devait pas quitter son palais. C'était, je crois...
C'est extrêmement frappant, cette idée que le rêve contient la clé de la guérison. On voit bien que pour Freud, c'est une sorte de symbole de la psychanalyse, puisque lui aussi annonce qu'il trouve dans le rêve la clé de l'histoire personnelle de son patient, dont il va se servir pour conduire à cette résolution des conflits intérieurs de son patient.
D'ailleurs, Burckhardt expliquait les rêves de guérison par l'hypnose, d'ailleurs, et la suggestion. Voilà. Mais alors, Freud trouvera encore beaucoup plus d'indications, notamment sur Artémidore, l'homme de la clé des songes, chez Théodore Gompertz. Et ça, c'est vraiment un personnage extrêmement important pour lui.
Théodore Gompertz était le pape des études helléniques à l'université de Vienne, à l'époque où Sigmund Freud y faisait ses études, et jusqu'au début des années 1900. Théodore Gompertz était d'ailleurs un savant célèbre dans l'Europe tout entière, comparable à Mommsen, et qui avait des relations avec tous les érudits et toutes les académies d'Europe. Et ce qui attirait un peu plus encore la sympathie de Freud vers Théodore Gompertz, c'est que Théodore Gompertz était un intellectuel juif comme Freud, mais d'un tout autre milieu. Rappelons que Freud était issu de la petite bourgeoisie juive, d'immigration récente dans la métropole viennoise. Gompertz, au contraire, c'était une des plus grandes familles de ce que j'appellerais l'aristocratie juive de Vienne. Ses frères et ses sœurs de Theodor Gompertz était banquier, homme politique, marié à des banquiers et des industriels, famille richissime. Theodor Gompertz n'avait absolument aucun besoin de son salaire de professeur pour vivre très confortablement.
Et c'était des libéraux, hein. C'était des libéraux et c'était des assimilationnistes. C'était des juifs qui étaient pour une assimilation complète.
Absolument. Theodor Gompertz était un libéral trempé des idées de 1848 et il était très profondément assimilé à la culture allemande et comme on le comprend, pour lui, la culture grecque et la culture allemande ne faisaient qu'un à travers la culture grecque, c'était à la culture allemande qu'il s'assimilait et vice-versa. Il y a dans la personnalité de Theodor Gompertz cette alliance qu'on vérifie si souvent dans l'histoire culturelle allemande de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, cette alliance entre l'héritage classique et l'identité culturelle allemande. Et cette grande figure d'intellectuel libéral, héritier des idées de 1848, il est vrai, assagi par une conviction conservatrice, donnait à Theodor Gompertz un rôle qui, à Vienne, allait très au-delà de son autorité universitaire et scientifique. Gompertz intervenait dans les revues et dans les journaux, donnait son point de vue sur les questions de l'heure, et un de ses chevaux de bataille était de militer pour l'assimilation des Juifs et pour un système qui leur donnerait leur place dans la culture allemande. C'est ainsi qu'il était très hostile au sionisme et que, à propos d'une réforme électorale qui avait introduit une curie juive en Bucovine, à l'est, à l'extrême est de la monarchie, Gompertz avait pris la plume dans un des grands journaux de Vienne pour crier au scandale et pour dire qu'on était en train de recréer un nouveau ghetto électoral pour les Juifs.
Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance qu'avait pour Freud Theodor Gompertz en tant que philologue, justement ?
Il avait une grande importance parce qu'il avait projeté sur la philosophie grecque, dont il était l'historien à travers cet ouvrage en plusieurs volumes intitulé « Les penseurs de la Grèce », il avait projeté un schéma rationaliste voyant chez les présocratiques l'aube de la pensée scientifique et technologique et voyant de Platon à Aristote progresser cet esprit scientifique, cette vision scientifique du monde. Pour bien situer Gompertz, on peut rappeler que sa grande inspiration parmi les penseurs contemporains était John Stuart Mill. Et il admirait aussi beaucoup l'anglais auteur d'une histoire grecque d'inspiration libérale, Grote. Et de ces Anglais libéraux, il retient ce code de lecture rationaliste et scientifique de la pensée grecque. On peut dire, pour simplifier beaucoup et pour être clair, que Gomperz était une sorte d'anti-Nietzsche. Tout ce que Nietzsche critiquait, Gomperz le considérait au contraire comme le meilleur de l'héritage grec. Alors que Nietzsche magnifie l'esprit poétique et métaphysique des présocratiques et se répand en critique sarcastique sur Socrate et sur la décadence socratique de la pensée grecque, Gomperz, lui, affirme exactement le contraire.
Mais ce que je voulais vous faire dire quand même, c'est que vous citez à un moment donné le discours de Rome de Lacan, pour qui avait dit à ce moment-là que l'inconscient est structuré comme un langage, mais on sent déjà dans ce contact que Freud a avec Theodor Gomperz que Freud considère l'analyse, considère l'inconscient comme un texte à établir, à interpréter, selon la méthode philologique, justement.
C'est vrai que on a souvent parlé de la métaphore archéologique et j'ai moi-même apporté pas mal de documents à l'appui de cette lecture de l'interprétation freudienne. Mais je voudrais insister sur l'importance du paradigme de la philologie consistant à établir un texte, à l'interpréter et à le traduire. Et on peut dire que cette méthode historique et philologique a été un modèle pour la méthode psychanalytique freudienne et sans avoir la prétention de corriger Lacan, je me suis risqué à le compléter et à ajouter à cette idée majeur de Lacan que l'inconscient chez Freud est structuré comme un langage, ajouter le fait que l'inconscient est structuré comme un texte et que l'interprète freudien se place face à l'inconscient de son patient comme le philologue face à une langue ancienne.
Alors, Jacques Le Rigler, vous venez aussi de publier chez Belin, dans la collection Voix allemande, un Arthur Schnitzler, et Schnitzler a tout à fait sa place dans un ouvrage sur Freud, puisque les deux hommes se connaissaient et s'appréciaient.
Les deux hommes se connaissaient si bien et s'appréciaient si hautement que Freud a même dit à Schnitzler qu'il le considérait comme son double, comme son doppelganger. Et de son côté, Schnitzler était très conscient de l'importance de Freud et
tous deux étaient médecins en fait.
Tous deux avaient
les mêmes professeurs d'ailleurs.
Tous deux avaient suivi une formation à la faculté de médecine de Vienne au contact des mêmes professeurs en particulier en psychiatrie et en neurologie et Schnitzler avait acquis le titre de docteur en médecine. Il avait d'ailleurs un cabinet en ville et c'est par la suite qu'il a décidé de se consacrer entièrement et exclusivement à la littérature. Mais jusqu'au bout, Schnitzler, jusqu'à sa mort, est resté inscrit dans l'annuaire des médecins praticiens viennois.
Est-ce que vous pouvez dire un mot sur un des thèmes favoris de Schnitzler, qui est le duel ?
C'est vrai, le duel est un des thèmes favoris de la représentation chez Schnitzler de ce que Peter Gay appelle la culture de la haine. Schnitzler en fait le révélateur de cette agressivité, de cette pulsion de mort qui conduit des bourgeois de grande culture et de bonne mœurs à mettre en péril leur propre vie et à courir le risque de tuer leur adversaire. C'est une loi de la violence et de la jungle codifiée au sein d'une civilisation qui, par ailleurs, a fait de cette violence un tabou. Et Schnitzler développe ce thème du duel pour montrer comment, sous le vernis de la civilisation, la bête humaine reste toujours les griffes prêtes à frapper.
D'ailleurs, ce thème de la violence, bien entendu, il travaille, Freud, à commencer lorsqu'il prend en considération le personnage de Moïse, qui est un personnage violent aussi, et il le souligne.
Au fond, de sa lecture d'Œdipe Roi jusqu'à l'homme Moïse, Freud montre que toutes les valeurs culturelles, que tout le travail de civilisation repose sur une base de violence originelle. C'est le progrès de la culture qui se développe sur cette violence surmontée, cette violence maîtrisée. Mais en affirmant cela, Freud nous rappelle aussi que la régression, la rechute est toujours possible de la civilisation vers la violence.
Je disais au début de l'émission que Freud, à travers votre livre, nous faisait signe et nous donnait de ses nouvelles. Et il est vrai qu'il faut restituer tout le contexte intellectuel, culturel, philosophique et politique dans lequel Freud a évolué pour mieux comprendre l'homme et donc aussi pour mieux saisir la théorie et la pratique clinique de Freud. Grâce à vous, donc, Jacques Le Rider, Freud nous est devenu plus proche. Je rappelle que Freud, de l'Acropole au Sinaï, le retour à l'antique des modernes viennois, est publié aux presses universitaires de France dans la collection Perspective germanique et que vous venez de publier donc chez Belin dans la collection Voix allemande Arthur Schnitzler. Merci Jacques Le Rider.